Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi. Bonjour Jackie.
Bonjour Oscar.
Alors vous êtes d'ADRA Europe. ADRA, c'est l'Agence de développement et de secours adventiste. Et vous êtes avec nous en ligne depuis Bruxelles. Alors bien sûr, aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, c'est forcément celui qui est incontournable et dont tout le monde parle, c'est l'Ukraine, cette guerre qui a démarré depuis bientôt une semaine en Ukraine. Quelles informations vous avez, Jackie, du terrain?
Les informations nous sont parvenues par les deux pays qui ont la plus grande frontière commune avec l'Ukraine, à savoir la Pologne et la Roumanie. Vendredi, samedi, il y a des gens qui étaient sur le terrain, enfin qui allaient à la frontière pour voir comment, dans quelle mesure ils pouvaient aider. Il y a l'afflux de personnes, tout le monde l'a vu. Les gens arrivent, ils sont désemparés, ils fuient une situation tragique. Et quand ils arrivent aux frontières, ça c'est ce qu'on a reçu aussi de la Slovaquie, on a reçu aussi de la Hongrie. Ils doivent attendre 8 à 9 heures avant de pouvoir traverser de l'autre côté de la frontière. Ça c'est une première épreuve, donc il y en a parfois qui abandonnent même leur voiture et malgré le froid qui font les derniers kilomètres à pied. Quand les personnes arrivent, il y en a qui sont accueillies par des familles et il y en a qui restent quelques heures et qui continuent le voyage dans d'autres pays européens.
Parce que finalement ils ont nulle part où aller.
Non, ils n'ont nulle part, mais c'est les premières personnes qui sont arrivées, en tout cas ce week-end, ce sont des gens qui avaient un lien de parenté ou un lien fort d'amitié avec une autre personne, mais qui se trouve dans un autre pays européen. Donc c'est la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, c'était vraiment des points de passage. Et donc depuis hier, là, il y a des personnes qui arrivent aux frontières et donc dans les centres de refuge qui sont là pour un peu plus longtemps. Et ces pays limitrophes ont chacun leur politique, on va dire comme ça, mais les pays sont assez ouverts. Il y en a par exemple qui carrément offrent soit l'asile, soit de rester 90 jours, soit après évidemment de rejoindre la famille ou des amis ailleurs. Mais on voit que les gens qui arrivent, en tout cas, ils ont une autre attache que les pays avoisinants.
Donc ça veut dire que concernant l'aide humanitaire qui se met en place, et notamment avec le réseau ADRA, et cette aide humanitaire doit se déployer à la fois à l'intérieur du pays, en Ukraine, et puis à la fois à l'extérieur, là où les Ukrainiens se réfugient, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu des convois qui sont entrés avec les biens de première nécessité. C'est vrai, c'est important. C'est pour ça qu'il y a une coordination au point de vue à ADRA Europe. On entre avec ses devoirs, les besoins qui sont sur place. Et dans le pays, il y a aussi un bureau ADRA où les gens travaillent un peu partout maintenant. Ils n'ont pas un bureau central qui voit les besoins et qui dit, voilà, dans ce coin-là, on a besoin de plus de ça. Dans ce coin-ci, on a besoin de plus de ceci. Ah, j'ai oublié l'autre pays. J'ai oublié la Moldavie, je pense. Mais voilà, c'est aussi un pays limitrophe. Et les gens qui sont maintenant, il y a des gens qui arrivent avec des convois et qui entrent dans le pays, mais il y a aussi des centres qui sont préparés aux postes frontières soit par les autorités, mais il y a une très grande solidarité aussi, même des particuliers qui proposent d'avoir comme ça des endroits pour les personnes pour les loger.
Juste après la frontière, vous voulez dire?
Juste après la frontière, oui, c'est ça, juste après la frontière, et c'est après les points de passage ou de contrôle de frontière, pas très loin, alors des centres sont mis en place, que ce soit en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Slovaquie. Il y a vraiment des équipes qui sont des deux côtés, ceux qui vont faire le transport et les autres qui vont faire l'accueil
Et donc le point d'appui
sur
à
place.
l'intérieur de l'Ukraine, c'est Adra Ukraine, c'est ça?
Oui, tout à fait. À Adra Ukraine, les bureaux travaillent vraiment en collaboration et ce qui est bien, c'est là on voit vraiment l'importance d'avoir du réseau. C'est pas juste maintenant qu'ils travaillent ensemble, mais il y avait plusieurs bureaux qui travaillaient ensemble, notamment la France travaille avec l'Ukraine. Et donc du coup, quand il y a une crise comme ça, on peut vraiment organiser, on peut centraliser et envoyer l'information de la meilleure manière possible, en fait. Et donc ça, c'est vraiment d'avoir ADRA au sein du pays, c'est vraiment un atout, c'est un appui. Les gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le pays et qui peuvent, maintenant comme ils sont aussi dispersés, voir directement où sont les besoins les plus pressants et alors faire appel à leurs partenaires en dehors.
Jacqueline, vous avez dit au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à 6 jours de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quels sont les besoins aujourd'hui?
On a dans les premiers temps, de toute façon, tout est nécessaire ou était nécessaire. Pour le moment, les personnes qui sont en charge de la gestion de crise sont arrivées en Pologne pour gérer et voir quels sont les besoins réels. On a déjà pressenti, on a eu beaucoup de vêtements, beaucoup de nourriture, etc. Mais il y a aussi un grand besoin d'argent, tout simplement, parce qu'on trouve encore des articles. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir l'argent pour les acheter. Les besoins, évidemment, en support psychologique pour tous les gens qui arrivent, et aussi pour les enfants, ça c'est prévu aussi. Envoyer des vêtements, des choses comme ça, il vaut peut-être mieux faire un don et voir après les ADRA des pays vont envoyer ça en Ukraine et eux vont pouvoir se débrouiller sur place pour le moment parce qu'il y a encore assez de produits sur le marché.
Et ça veut dire aussi que ADRA travaille avec d'autres ONG là dans le cadre de cette crise
Oui,
en Ukraine. Il y a une
oui.
coordination
Il y a une coordination.
inter-ONG.
Oui, tout à fait. Il y a notamment les Polonais, la Roumanie, je ne suis pas sûre, mais en tout cas la Hongrie et la Slovaquie et la Tchéquie. C'est vrai que tout le monde a envie d'aider, tout le monde veut faire le bien. Et donc, pour que ce soit vraiment l'aide soit efficace, par exemple, si toutes les ONG se mettent à ramasser de vêtements, on va créer une crise parce qu'une fois que les vêtements sont arrivés, il faut voir comment les distribuer. Alors, quelles sont les personnes qui vont les distribuer? Où est-ce que les vêtements vont être stockés? Des choses qui vont faire des problèmes dans un problème qui est déjà existant. On met les moyens ensemble, on se parle et on voit comment agir. On est dans une situation qui est très tendue, donc il faut vraiment travailler en marchant sur la pointe des pieds et vraiment être en accord avec ce qui est pas dicté, mais ce qui est un peu prévu dans le pays.
Et
C'est
aujourd'hui, donc, Jacqueline Moubedi, les auditeurs qui écoutent cette émission et qui souhaitent
Oui.
soutenir les actions d'ADRA en Ukraine, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils se rendent sur les plateformes internet des ADRA locales, enfin locales, nationales, tout simplement?
Exactement. Je sais que il y a de la communication au point de vue ADRA Europe, au point de vue de chaque pays en lui-même, qui va récolter via un compte spécial ou alors le même compte des fonds pour l'Ukraine.
D'accord, il faut spécifier que le
Même
don est pour
si
Adra Ukraine, c'est ça?
voilà, exactement. On spécifie toujours dans la communication et comme ça, on est sûr que ce don qu'on a fait spécifiquement ira pour l'Ukraine. Il y a une plateforme aussi que nous avons mise sur notre site internet qui est, on va dire, un peu plus général. Oui,
Adra.eu.
c'est ça, adra.eu. Et mais si c'est plus facile et que vous avez déjà enregistré l'adresse dans vos préférences bancaires, ben on fait le don. Et on précise bien que c'est pour l'Ukraine. Malheureusement, cette urgence, enfin, qu'il y ait une urgence maintenant aura des grandes conséquences qu'il faudra continuer à gérer par après. Donc,
dont on aura forcément l'occasion de reparler aussi dans cette émission Parole solidaire. Voilà, oui. Merci beaucoup Jackie Moubedi. Je rappelle que vous êtes d'ADRA Europe et que vous interveniez aujourd'hui pour nous parler de la situation en Ukraine. C'était Parole solidaire. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres informations en rapport avec les solidarités internationales. À bientôt, merci, au revoir.
À bientôt, merci à vous.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
The world is very evil. The times are waxing late. Be sober and keep vigil. The judge is at the judge that comes in mercy, the judge that comes with might to terminate the evil, to diadem the right.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193 Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
J'ai eu des difficultés dans ma vie qui me font dire que je ne serais jamais arrivée aux Jeux Olympiques par moi-même. Et non seulement Dieu m'a récupérée sur cette route, mais en plus, il a réalisé un rêve impossible de petite fille.
Les JO, les Jeux Olympiques, sont encore tout frais dans vos mémoires. Alors, c'est vous l'histoire, vous en remet une petite couche. Nous recevons Sandrine Rey, sportive d'élite qui a porté les couleurs de l'équipe suisse de hockey sur glace féminin aux Jeux d'hiver de Turin en 2006. Un rêve d'enfant qui se réalise pour notre invitée, mais c'est également sur le chemin prestigieux des JO que Sandrine Rey fait une rencontre unique dont elle nous parle au micro de Muriel Ramoni.
Bonjour Sandrine Rey.
Bonjour.
On aurait pu se retrouver sur une patinoire, ça aurait été sympa, je trouve.
J'aurais été bien à l'aise en tout cas sur une patinoire.
Ouais. Ouais, peut-être plus que dans un studio radio. En fait, ça aurait peut-être été un peu compliqué en tout cas. Vous êtes là, c'est l'essentiel et je vous accueille avec un superbe t-shirt.
Oui, j'étais surprise d'ailleurs, une belle surprise de se faire accueillir aux couleurs de hockey.
Ouais, couleurs de hockey de l'équipe des Canadiens de Montréal. Alors on va parler sport, on va parler hockey sur glace et on va aussi parler de votre foi, Sandrine Rey.
Oui, volontiers.
Alors vous avez fait partie de l'équipe féminine suisse de hockey et vous avez participé aux Jeux Olympiques de Turin en 2006.
C'est ça, oui.
Les Jeux Olympiques, c'est des bons souvenirs, j'imagine.
Alors les Jeux Olympiques, c'est clair que c'est des souvenirs extraordinaires, surtout quand c'est un rêve impossible de petite fille qui se réalise, ce qui a été le cas pour moi. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de douleurs.
Mais un rêve de petite fille, c'est quand même étonnant parce que le hockey sur glace, c'est pas le sport féminin par excellence.
Ah oui, mais la chance m'a été donnée quand j'étais toute petite de faire du hockey sur glace. J'avais 4 ans et en fait, j'adorais patiner. J'adorais aller patiner avec mes parents. Et puis, un coach de hockey sur glace m'a vu patiner et a proposé à mes parents d'essayer le hockey sur glace. C'était un coach canadien. Donc, pour lui, que les filles fassent du hockey, c'était normal. Et j'ai essayé et j'ai plus jamais décroché, en fait. C'était tout de suite devenu ma passion.
Et c'était naturel?
Ah oui, c'était dans le sang. Hein.
C'était donc votre rêve de petite fille?
Tout à fait, ouais.
Comment est-ce que vous êtes arrivée à à ce jour, ce grand jour des Jeux Olympiques où vous jouez pour l'équipe suisse?
Alors c'est une longue histoire, mais le rêve a commencé en fait vers l'âge de 8 ans. C'était une nuit où j'ai vraiment eu un rêve où je me suis vue rentrer dans le stade olympique à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et vous savez, quand les athlètes rentrent dans le stade et puis saluent la foule en représentant leur pays, ben, c'était mon rêve. Et quand je me suis réveillée, comme ce rêve était tellement réel, j'y ai cru. Et j'ai dit à tout le monde, je vais aller aux Jeux Olympiques. Sauf que ce rêve était bien impossible puisque le hockey sur glace féminin n'était pas une discipline olympique à cette époque-là. Donc c'était vraiment un rêve impossible. Mais j'y ai cru de tout mon cœur. Et puis... j'y suis allée à fond et petit à petit, ben, je me suis rapprochée de ce rêve impossible. Mais j'ai quand même eu de gros échecs avant d'y arriver. Ça veut dire que à l'âge de 17 ans, on a eu la chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 avec mon équipe. Et là, on a loupé la qualification pour un but. Et c'était une période charnière de ma vie. Et vraiment, je pense le moment qui a changé toute ma vie. Ouais.
Ouais. Donc grosse déception en 2002.
Oui, énorme déception parce que c'est un rêve, mais c'était... Pour moi, c'était toute une vie qui s'écroulait. Ouais. Les Jeux Olympiques, c'était devenu plus qu'un rêve, c'était devenu ma bouée de sauvetage, mon salut, puisque dans ma vie, j'avais aussi d'autres soucis, d'autres difficultés. Et je me raccrochais à ce rêve comme ce qui allait me sauver finalement, puisqu'il allait donner du sens à ma vie. Alors, ma vie a complètement changé. Donc, ce jour-là où tout s'est écroulé, où j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu, c'est là que j'ai rencontré Jésus, en fait. Donc, je suis sortie de la patinoire juste après le match où on a loupé la qualification. Et j'ai crié à Jésus de tout mon cœur. Et il m'a répondu en m'offrant une paix que j'avais jamais expérimentée jusqu'à présent. C'est une paix que la Bible dit... qui dépasse tout entendement. Donc c'est difficile à expliquer, mais ça m'est arrivé dessus et c'est là que j'ai réalisé qu'il était vivant.
Parce que jusque-là, vous étiez croyante ou pas spécialement? Pourquoi alors, ce cri à Jésus?
Alors j'ai grandi en ayant entendu l'histoire de Jésus, sans doute en croyant qu'il existait, mais ce Jésus-là, je ne le connaissais pas et il ne faisait pas partie de ma vie. Moi, ce que je connaissais, c'était le hockey et c'est mon rêve que je suivais, pas Dieu. Donc je vivais en... sans doute comme la plupart des Suisses, en pensant que peut-être Dieu existe, mais sans qu'il y ait un impact pour moi dans ma vie. Mais ce jour-là, ben, vous savez, quand tout vous est enlevé, quand votre vie bascule en l'espace de quelques secondes, il reste l'essentiel. Et ce jour-là, ben, j'ai vu que Dieu était encore là. Malgré que j'ai tout perdu, et malgré que j'ai tout fait faux ou que j'ai tout foiré, Dieu était là et il m'aimait.
Donc en 2002, une rencontre un peu particulière avec Jésus, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de sportive ou dans votre vie globale, Sandrine Rey, cette rencontre avec le Christ?
Alors ça change pas forcément les circonstances ou ce qu'on vit, mais c'est clair que ça change la manière dont on les vit. Si vous voulez, ben après avoir Jésus dans ma vie, c'est pas que j'ai commencé à tout gagner et que tout allait bien. Au contraire, j'ai subi beaucoup de défaites ou des blessures. Mais la différence, c'était de savoir que Dieu était là et que je pouvais vivre ces choses avec lui. Donc les défaites, par exemple, ben du coup, je savais que c'était plus aussi important parce que quoi qu'il arrive, son amour ne partirait jamais. Et pour les blessures, ben je savais que même si tous m'abandonnaient, parce que quand vous faites partie d'une équipe, vous êtes dans l'équipe, vous êtes intégré, mais dès que vous êtes blessé, ben vous êtes hors de l'équipe. Un peu comme dans la société, quand on a un travail, on fait partie de la société, et dès que vous avez plus de travail, tout à coup, vous êtes hors de la société. C'est un peu pareil dans le sport. Et vous êtes tout seul à pouvoir revenir. Mais quand j'étais blessée, dans ces moments de blessure, eh ben, je savais qu'il y avait un Dieu qui était là et qui ne m'abandonnait pas. Et ça m'a vraiment aidée à continuer. Et justement, petit à petit, ben, je me suis retrouvée pour une deuxième qualification. Je suis partie du principe que en fait, je joue à fond et je me donne à fond pour ma passion, pour ce qui était ma vie aussi. Ma vie était dans le sport et j'habitais à Lugano. Je jouais avec l'équipe de Lugano, donc le hockey sur glace faisait partie intégrante de ma vie. Mais j'ai toujours pensé que j'avais loupé le coche. J'avais loupé la qualification et je pensais pas que j'allais pouvoir vivre ce rêve. Pourtant, 4 ans plus tard, on a une deuxième chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et de nouveau, on arrive au dernier match pour la qualification. Et là, on marque le but de la victoire à 4 secondes de la fin du match. Et c'est comme ça qu'on se qualifie pour les Jeux Olympiques. Comme quoi, vraiment, tout peut basculer en l'espace de quelques secondes.
Ouais. Ouais, inespéré comme victoire. 4 secondes, c'est rien. Bon, hockey sur glace, ça va vite, ça peut être beaucoup.
Ouais, mais on sait que justement, en hockey sur glace, un but peut être marqué en l'espace de quelques secondes. Et c'est vraiment là les leçons de vie que j'ai apprises à travers du hockey sur glace. C'est-à-dire que dans la vie aussi, on peut tout perdre en l'espace de quelques instants. Mais c'est ça qui m'a apporté ma foi finalement en Dieu. C'est de savoir que quoi qu'il se passe, lui sera toujours là. Ouais.
Le hockey sur glace féminin, c'est aussi violent ou rude que le hockey sur glace des équipes masculines qu'on a peut-être plus l'habitude de voir à la télévision? Ça cogne pas mal quand même.
Alors oui, le hockey sur glace est un sport de contact, donc c'est clair que le hockey féminin est aussi un sport de contact, mais c'est fille contre fille, donc forcément les contacts sont bien moins violents que ce qu'on peut voir à la télévision chez les hommes.
Mmh. Encaisser les coups, c'est difficile?
Alors c'est un apprentissage, et c'est la beauté de ce sport, c'est de savoir justement encaisser des coups, et puis de continuer malgré tout.
Mmh. Puis en donner aussi?
En donner, mais toujours dans les règles. Et c'est ça qui a aussi beaucoup changé depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, c'est de se dire maintenant comment je réagis par rapport justement au contact aux bagarres qui peuvent se produire. Et ben voilà, c'est ça, j'ai décidé le plus possible d'agir selon les règles, comme dans la vie aussi.
La compétition, la rivalité, c'est dans toute la vie, hein, pas seulement dans le sport. Comment ça se gère, hein?
Moi, je pense que, mais c'est ce que je lis aussi dans la Bible, c'est qu'on est amené à se donner à fond avec ce qu'on a reçu. Moi, je crois que le hockey sur glace ou le sport, c'est aussi un talent qui nous a donné, quelque chose que j'ai reçu et je peux vraiment l'utiliser à fond pour Dieu et puis me donner à fond pour lui. Mais ce qu'il m'a demandé, c'est justement de jouer selon les règles et puis d'être correct. C'est clair que la compétition, c'est vouloir gagner, mais pour moi, on gagne pas à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses aussi. Gagner en écrasant les autres, ben c'est pas une victoire pour moi.
Est-ce que prier pour la victoire, c'est quelque chose, est-ce que ça se fait?
Alors ça, c'est quelque chose que je pense pas qu'il soit judicieux de faire, parce que que se passe-t-il si les deux adversaires prient pour la victoire? Moi personnellement, ben je prie pour pouvoir donner le meilleur de soi, pour avoir la force nécessaire, pour éviter les blessures, pour moi, pour mes adversaires, pour que le jeu soit le mieux possible.
Les Jeux Olympiques en 2006, qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui?
Il en reste une incroyable reconnaissance de Dieu, parce que j'ai eu un rêve de petite fille à l'âge de 8 ans, un rêve impossible, et j'ai eu des difficultés dans ma vie qui me font dire que je ne serais jamais arrivée aux Jeux Olympiques par moi-même. Et non seulement Dieu m'a récupérée sur cette route et j'ai pu le connaître, j'ai pu le rencontrer, mais en plus, il a réalisé un rêve impossible de petite fille. Et ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois que j'y pense, j'en arrive presque à avoir les larmes aux yeux. J'ai grandi à Yverdon, dans des HLM, et on se dit, mais est-ce que Dieu peut me voir là? Est-ce que Dieu peut agir dans ma vie? Et là, de me dire que Dieu, il a vu mon rêve et qu'il décide de réaliser ce rêve alors qu'il a déjà tout donné pour moi, ça, c'est ce qui m'en reste des Jeux Olympiques, me dire que je sers et je suis un Dieu qui peut réaliser l'impossible.
Peut-être encore une dernière question, Sandrine Ray. Qu'est-ce que vous diriez aux sportifs d'aujourd'hui? Vous êtes en formation pour être aumônière du sport. Un message adressé aux sportifs de haut niveau ou de plus petit niveau?
Alors à tous les niveaux, je donnerais ce conseil de toujours garder la passion et le plaisir. Et j'ai remarqué que par rapport à ma formation d'aumônerie, que souvent quand le plaisir commence à s'estomper ou à partir, c'est que des fois il y a des problèmes à certains niveaux et ça démontre un danger. Donc c'est surtout pas rester longtemps dans un cas où il y a plus le plaisir.
Vous êtes restée passionnée, vous, Sandrine Ray?
Alors, il y avait des périodes plus difficiles et c'est clair qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai voulu abandonner. Dans ces moments-là, bah, ma foi a joué un rôle primordial. Mais c'est aussi quelque chose que j'aime à dire aux jeunes, c'est de savoir que les sportifs qu'on voit à la télé ou aux Jeux Olympiques, c'est pas des super-héros ou des surhumains. On est des humains comme les autres et on a nos moments de doute et des moments où on a envie d'abandonner. Ça veut pas dire qu'on va jamais y arriver. Tout n'est jamais terminé, c'est ça que je veux dire aux jeunes. Il faut toujours continuer, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait jamais jusqu'où ça peut nous mener, justement.
Un but dans les 4 dernières secondes.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai cru que tout était terminé après la première qualification, et puis 4 ans plus tard, j'étais dans le stade olympique. On sait jamais, dans la vie, c'est pareil, on sait jamais comment les choses tournent. Il faut juste continuer, comme on peut.
Merci beaucoup, Sandrine.
Merci à vous.
Il faut toujours continuer, nous encourage notre invitée du jour, Sandrine Ray. Si la jeune femme a désormais quitté l'équipe nationale, elle joue toujours au hockey sur glace. Elle est également en passe de devenir la première aumônière sportive du canton de Vaud en Suisse. De notre côté, il est temps de se quitter. À plus.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple, depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9 978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.